Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez démarré votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui, Dieu aidant, terminer le chapitre 2 de Saint-Luc, qui est certainement un des plus beaux chapitres des évangiles. Nous en sommes au verset 46 de ce chapitre 2 de Saint-Luc, sur le polycopier qui contient les chapitres 1 à 5 de Saint-Luc, à la page 26. Jésus vient d'être perdu au temple, ses parents, la Sainte Vierge Marie, son père putatif Saint-Joseph le cherche partout, et le trouve après 3 jours dans le temple. Voilà le texte. Il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. D'abord, les pères de l'Église font remarquer que notre Seigneur commence ses enseignements divins à 12 ans. Pourquoi ? Parce que le chiffre 12 représente le nombre des prédicateurs de l'Évangile. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a une seule personne, mais une double nature. Il est homme et Dieu. Et donc les pères aussi voient dans le texte la manifestation et de l'humanité et de la divinité. Pour montrer qu'il était homme, notre Seigneur écoute modestement les docteurs, qui n'étaient que des hommes. Et pour prouver qu'il est Dieu, il répond à leurs questions d'une manière sublime, avec beaucoup de sagesse. Donc ses paroles révèlent une sagesse divine, mais son âge le couvrait des dehors de la faiblesse humaine. Donc la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est en quelque sorte cachée sous la frêle apparence de l'humanité. Il est vraiment homme, il est vraiment Dieu. Et quand on voit l'extérieur, on ne voit que l'homme. C'est pour cela que la foi doit intervenir. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ n'a fait son premier miracle qu'à l'âge, que je veux dire qu'au début de sa vie publique, donc lorsqu'après 30 ans, il a choisi ses apôtres et qu'il les a convaincus par le miracle de Cana en Galilée lorsqu'il a changé l'eau en vin. Et donc, avant l'âge de 30 ans, il n'a fait aucun miracle. Or, notre Seigneur Jésus-Christ montrait, manifestait sa divinité de deux façons. D'une part, par le fait qu'il remplissait les prophéties de l'Ancien Testament, et d'autre part, par les miracles. Alors, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est enfant, il est élevé par la Sainte Vierge Marie, par Saint Joseph, là il a 12 ans, à cet âge-là, il ne manifeste pas, par ses actions extérieures, par sa façon de parler, le fait qu'il remplisse une prophétie particulière de l'Ancien Testament. Donc il ne pourrait à ce moment-là manifester sa divinité que par des miracles. Or il n'en fait pas. Voilà pourquoi les docteurs du temple ne peuvent pas voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils sont déjà impressionnés, l'évangile dit ravi, par la sagesse de ses réponses. Le père faut remarquer que le Christ n'est pas trouvé au temple, n'est pas sur la place du marché ou au théâtre. Donc faisons comme lui, disent les pères, afin de devenir disciples de la vérité, et non maître de l'erreur. L'histoire rapporte que les saints Basile et Grégoire de Nazianze, qui étaient frères de sang, si mes souvenirs sont exacts, imitèrent tellement bien le Christ qu'ils ne connaissaient que 2 rues dans leur ville, celle qui menait à l'église et celle qui menait à l'école. Posons-nous la question pour nos enfants. Est-ce que nos enfants ne connaissent que deux rues, celle qui mène à l'église, celle qui mène à l'école, ou connaissent-ils mieux la rue qui mène au magasin qui vend les jeux vidéo ou les bêtises de ce genre? On voit parfaitement ici l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'un peu difficile à comprendre dans ce passage de l'Écriture sainte. Notre Seigneur Jésus-Christ semble avoir désobéi à ses parents, ou plus exactement ne pas avoir manifesté tout le respect à ses parents qui leur était dû. Pourquoi? Parce qu'il reste derrière à Jérusalem sans les prévenir. En fait, derrière cette action, il y a tout un symbole allégorique. Notre Seigneur Jésus-Christ montre très bien qu'il appartient à un être supérieur en tant qu'homme. Il appartient d'abord à son Père. D'ailleurs, il va le dire un peu plus tard, ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Et donc, cela montre que nos enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent d'abord à Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui reste au temple de Jérusalem sans manifester à ses parents, montre à quel point les parents doivent comprendre qu'ils ne possèdent pas leurs enfants. C'est pour cela que lorsqu'on médite sur ce passage de l'Écriture sainte, la grâce que nous demandons, c'est l'abandon à la divine providence, l'abandon à la volonté divine. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Surtout si je ne la comprends pas, que je ne l'aime pas, c'est facile d'accepter la volonté du bon Dieu quand on l'aime bien. Mais là, on voit très bien que la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ont été profondément peinés de voir que notre Seigneur Jésus-Christ avait été perdu. Imaginez-vous un petit peu ce qui serait passé pour chacun d'entre nous si nous avions perdu un enfant de 12 ans dans une grande ville. Il y a cette phrase que nous expliquons plus tard. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Cela montre encore une fois, puisque Notre-Dame était surprise de la perte de son enfant, qu'elle n'avait pas la science infuse, contrairement à ce que racontent certaines personnes. Chapitre 2 de l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 2, verset 48. En le voyant, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Voici que votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. Notez que la Très Sainte Vierge Marie parle du Père, d'abord. L'autorité de l'Église, l'autorité de la famille, c'est le chef de famille. Le chef de famille, même dans la Sainte Famille, c'est Saint Joseph. Pourtant, il est le moins saint des trois. La Très Sainte Vierge Marie est bien plus sainte que Saint Joseph, puisqu'elle est Immaculée Conception, ce qui n'est pas le cas pour Saint Joseph. Et notre Seigneur Jésus-Christ est infiniment plus saint, puisqu'il est Dieu. Vous voyez, la phrase dit bien, voici que votre Père et moi, l'autorité paternelle, et première. Cela doit faire réfléchir justement les parents chrétiens, surtout les mères chrétiennes. Parfois, elles nous disent, Monsieur l'abbé, comment se fait-il que Dieu ait demandé aux hommes d'être chefs de famille? La plupart du temps, les femmes sont plus vertueuses que les hommes, les époux sont plus vertueux que les époux. Mon mari ne connaît pas très bien son catéchisme et il ne pratique pas beaucoup les sacrements. Moi, je prie, je suis meilleur catholique, comment se dit que ça soit lui qui soit chef de famille et comment se fait-il que je lui doive respect et obéissance? Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Puisque nous sommes égaux, il paraît. La réponse est toute simple. Le père est chef de famille, même s'il n'agit pas forcément comme un chef de famille devrait exister, de même qu'un prêtre reste prêtre, même si malheureusement dans son action extérieure, il n'agit pas comme un prêtre. C'est un peu un mystère. C'est une des conséquences du péché originel. N'oublions pas les deux conséquences du péché originel. Pour les hommes, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, mais pour la femme, il y en a deux. Tu enfanteras dans la douleur et tu seras sous l'autorité de ton mari. Et l'Église ne dit pas tu seras sous l'autorité de ton mari. Dans la mesure où ton mari est plus sain que toi et plus intelligent que toi, tu seras sous l'autorité de ton mari. Ce qui ne donne pas, évidemment, au mari le droit de traiter sa femme comme une esclave. Puisque l'Église rappelle qu'un mari doit traiter sa femme comme le Christ a traité son Église. Et le Christ a traité son Église en mourant pour son Église. Donc, dans la Sainte Famille, cette séparation entre l'enfant Jésus, qui va rester 3 jours à Jérusalem sans avoir prévenu ses parents, représente la séparation qui arrive dans une âme lorsque le péché mortel entre dans l'âme. Voilà ce que disent les pères. L'âme qui s'est séparée de Jésus par le péché mortel ou de sa communion par une négligence vénielle doit le rechercher avec un cœur pénitent dans les peines et les larmes. Tout le texte, votre Père et moi, nous vous cherchions tout affligés. On ne trouve pas Jésus tout de suite. On ne trouve pas Jésus dès les premiers pas que l'on fait pour le chercher. Il ne faut pas agir avec négligence et mollesse, mais il faut faire de grands efforts et se donner de la peine pour retrouver notre Seigneur. Si j'ai le malheur d'avoir perdu notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit volontairement ou involontairement d'ailleurs, je dois tout faire pour le retrouver. Il arrive qu'on ait l'impression d'avoir perdu notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, c'est clair dans le texte, ont eu l'impression d'avoir perdu notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il n'était pas perdu, puisqu'il était dans le temple en train d'enseigner les docteurs. Lorsque je suis en grande désolation, qui est marquée toujours par les 4 mêmes signes, par la tristesse, la confusion, l'obscurité de l'âme, la cécité intellectuelle, et surtout par l'attraction vers les choses laides, lorsque je suis en grande désolation, j'ai l'impression d'avoir perdu notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les désolations sont souvent des tentations d'épreuve. Le bon Dieu permet que nous tombions en tentation, ou en désolation plus exactement, le bon Dieu permet que nous tombions en désolation pour mesurer le degré d'amour que nous avons pour lui. C'est facile d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien, encore une fois. Et le bon Dieu nous demande de vérifier, de nous demande que nous aimions, que nous l'aimions de toutes nos forces, également quand les choses vont pas. Et on peut également, malheureusement, perdre notre Seigneur Jésus-Christ volontairement par un péché grave. Si j'ai malheur de commettre un péché grave, je perds notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que je ne l'ai pas retrouvé par un acte de contrition parfaite et par une bonne confession, je l'ai perdu. Ce Seigneur Jésus-Christ a quitté mon âme. Le péché véniel ne fait pas perdre complètement notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est qu'une négligence, mais une négligence coupable. C'est pour ça que les pères ici font bien la remarque. L'âme s'est séparée, qui s'est séparée de Jésus par le péché mortel, séparation totale, ou de sa communion par une négligence vénielle, séparation partielle. Mais il y a déjà une petite séparation dans le péché véniel. Donc imagine un très beau diamant qui brille tous ses feux sous la lumière. Eh bien, le péché véniel correspond à la poussière qui se place sur le plat, sous le diamant. Le diamant est toujours là, il est toujours intact, mais il est seul. Et donc il ne réfléchit plus aussi bien la lumière. C'est pareil pour une âme en état de péché véniel. Une âme en état de péché véniel ne reflète plus aussi bien la lumière la lumière divine. Apprenons donc où Marie et Joseph le cherchent et où ils le trouvent. Ce n'est point partout indifféremment, mais dans le temple. Donc le temple de Jérusalem représente la chapelle, l'église. Notre Seigneur Jésus-Christ est le tabernacle de cette église. Donc lorsque je rentre dans une chapelle, je dois chercher l'endroit où se tient notre Seigneur Jésus-Christ pour venir à ses pieds et écouter son enseignement. Et cet endroit où se tient notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évidemment le tabernacle. Marie et Joseph vont trouver notre Seigneur Jésus-Christ après 3 jours. Comme figure que 3 jours après sa passion triomphante, alors qu'on le croyait victime de l'abord, il se montrait plein de vie à notre foi, assis sur son trône des cieux au milieu d'une gloire toute divine. Vous voyez comment les pères de l'Église associent ce qui se passe dans certains cas dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ avec d'autres choses qui arriveront dans le futur, par allégorie. Parfois, avec un sens qu'on appelle le sens anagogique, cela représente, quand on dit que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est retrouvé après 3 jours dans le temple de Jérusalem, représente notre Seigneur Jésus-Christ qui va être retrouvé alors qu'il trône dans les cieux au milieu d'une gloire toute divine, c'est le sens anagogique. Ça veut dire représentant ce qui se passera à la fin des temps, ce qui passera dans la parousie au ciel. Donc agissant ainsi, notre Seigneur enseigne à sa mère à s'élever dans les régions supérieures à tout ce qui est terrestre, se détacher des choses de ce monde. Humainement parlant, le vendredi saint, à 3 heures de l'après-midi, tout était perdu. Humainement parlant, ce même vendredi saint, on avait l'impression que le démon avait gagné tout le combat. Et pourtant, à cet instant précis, le démon avait perdu en fait le pouvoir sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur son Église, indirectement au moins. Il est impossible d'arriver à une vertu éminente pour celui qui aime à s'égarer dans les satisfactions de la nature. On s'éloigne de la perfection par un trop grand amour pour ses proches. On a un devoir d'aimer ses proches, attention, c'est le quatrième commandement. Tes pères et mères honorera afin de vivre longuement. Cependant, rappelez-vous ce que dit Saint Ignace, si les créatures autour de nous, même des créatures très proches, comme nos parents, si les créatures deviennent pour nous une occasion de péché, un obstacle pour notre sanctification, eh bien, il faut nous couper d'eux. Il faut utiliser les créatures qui sont autour de nous, dit Saint Ignace en début de ces exercices, c'est le principe et fondement, deuxième partie, autant que, pas plus que. J'utilise les créatures autant que ces créatures m'aident à aller vers le ciel, et je me coupe de ces créatures si ces créatures sont pour moi un obstacle. Voici le texte. Les autres choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire toutes les créatures, sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Donc il n'y a pas simplement l'obligation de quitter les occasions prochaines volontaires de péché grave, mais aussi le devoir de quitter des choses qui peuvent être bonnes, mais qui sont moins bonnes que ce que le bon Dieu souhaite que nous fassions. Donc il y a cette obligation de respecter nos parents, mais si les parents deviennent pour nous, même nos proches comme nos parents, deviennent pour nous un obstacle à notre sanctification, eh bien il faut couper. Notre Seigneur l'a dit expressément, si ta main droite, ton pied droit, ton œil droit sont pour toi des occasions de péché, eh bien il faut les couper et les enlever. Est-ce qu'il vaut mieux pour nous rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied, une seule main, plutôt que de tomber en enfer avec deux yeux, des deux mains et deux pieds? Et ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ est aussi vrai pour des choses qui ne sont pas des choses pécamineuses. Des choses pécamineuses, des occasions prochaines et volontaires de péché grave, on a le devoir de couper. Mais si des proches, encore une fois, sont pour nous quelqu'un, quelque chose, des circonstances qui nous empêchent de devenir aussi saints qu'on devrait l'être, à ce moment-là, il faut couper avec ça. Au moins d'une certaine façon. Bon, derrière ce texte, tous les pères de l'Église ont vu l'appel de Dieu à une vie supérieure, à la vie religieuse. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ, qui reste au temple de Jérusalem sans avertir ses parents, représente l'appel de la vocation. L'appel de Dieu, qui, dans le secret d'une âme, appelle une âme à le servir de façon plus parfaite. Bon, il est évident que si un jeune homme de 18-20 ans est persuadé d'avoir une vocation, qui a vraiment tous les signes extérieurs d'une vocation, son confesseur, ses supérieurs religieux, lui reconnaissent qu'il y a une véritable vocation, eh bien, il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ appelle, on ne pose pas de conditions, on suit. Il faut être sûr que c'est lui qui appelle, évidemment. Mais quand on est sûr que c'est lui qui appelle, il faut suivre. Donc, les enfants n'appartenant pas à leurs parents, si des enfants ou des jeunes adultes, plus exactement, ont vraiment une vocation religieuse, eh bien, ils ont le droit de suivre leur vocation religieuse, même contre l'avis des parents, ils en ont même le devoir. Parce qu'encore une fois, les parents ne sont pas propriétaires des enfants. Voilà pourquoi le texte ici dit que on s'éloigne de la perfection par un trop grand amour pour ses proches. Les pères disent, le Christ nous apprend nos trois principaux devoirs, aimer Dieu, honorer nos parents, savoir leur préférer Dieu quand il faut. En toute chose, Dieu est premier. Dieu premier servi. L'exemple typique, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, qui était une fille pieuse et obéissante, et qui vénérait ses parents, évidemment, à Don Rémy. Qu'est-ce qu'elle a dit lorsqu'elle a été certaine que c'était vraiment Dieu qui l'appelait à partir? Quand elle a entendu ses voix lui dire, le royaume de France est en mauvais état, va, allez, fille de Dieu, pour remplir votre mission, pour bouter les Anglais hors de France, et puis pour faire couronner le dauphin, Charles, à Reims. Lorsqu'elle a été convaincue de ça, qu'a-t-elle dit? Même si j'avais eu 100 pères et 100 mères, même si je devrais user mes jambes jusqu'aux genoux, je serais parti. Et pourtant, elle a eu l'opposition très forte de son père. Quand il a su que sa jeune enfant de 17 ans voulait partir avec les soldats, il a dit qu'il aurait préféré la noyer. Tellement il était choqué. Donc, rappelons-nous ces trois principaux devoirs. qui sont les moyens de sanctification, aimer Dieu, Dieu premier servi, mais aussi honorer nos parents, et savoir la préférer Dieu quand il faut. On honore nos parents, mais cet honneur dû aux parents est soumis à l'amour de Dieu. La plupart du temps, surtout avec des parents catholiques, les parents nous aident à monter vers le bon Dieu. Mais si nos parents deviennent pour nous un obstacle, il faut couper. Versets 49 et 50 du chapitre 2. Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il est évident qu'on peut parfaitement comprendre pourquoi les parents de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, ont été surpris de la réponse de notre Seigneur. C'est vrai qu'elle est un peu surprenante. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ne savez-vous pas que je suis ici sur terre, je suis devenu homme tout en étant Dieu pour obéir à mon Père ? Et mon Père m'a envoyé sur la terre pour accomplir le mystère de la rédemption, par lequel je vais sauver les hommes par ma mort sur la croix. Cependant, on voit très bien que juste après, il va rester avec eux. Il descendit avec eux, vint à Nazareth et il leur était soumis. Donc notre Seigneur a voulu certainement leur donner une leçon à ses parents pour leur faire comprendre certaines choses. Bien que ce fût de façon mystérieuse, c'est pas très clair, il faut voir ce qui est. C'est pour cela que la très sainte Vierge Marie gardait tout cela dans son cœur parce qu'elle n'avait pas tout compris. Donc en bas de la page 26 sur le polycopier, le Christ avait des actions divines et des actions humaines. Certaines étaient communes à tous les hommes, comme par exemple manger ou dormir, et d'autres lui étaient propres en tant qu'homme-dieu, ce qu'on appelle les actions théandriques. Par exemple l'enseignement divin de notre Seigneur Jésus-Christ, le fait de faire des miracles, ce sont des actions qui ne sont propres qu'à Dieu seul. Au contraire, manger ou dormir ne sont des actions qui ne sont propres qu'à l'homme, puisqu'un Dieu n'a pas besoin de dormir. La conclusion des pères est donc la suivante. Les ordres et les conseils divins, par exemple la vocation religieuse, la vocation sacerdotale, le martyr, l'apostolat, doivent passer avant l'amour pour une mère. C'est Sainte Jeanne Frémiot de Chantal qui quitte sa maison en marchant au-dessus de ses enfants, son petit dernier qui avait été placé à la porte de sa maison. Et quand elle a compris qu'elle devait partir, quitter sa famille pour aller fonder l'ordre de la Visitation sous les conseils de Saint François de Sales, eh bien elle est passée au-dessus du corps de son enfant. Bon, ce sont des choses extraordinaires, mais c'est de l'héroïsme. Dans certains cas, Dieu demande l'héroïsme. On voit la même chose, par exemple, de façon encore plus extraordinaire, dans la vie de Saint Nicolas de Flux, l'apôtre de la Suisse. Saint Nicolas de Flux, qui était père de famille nombreuse, qui avait une dizaine d'enfants, qui est appelé par le bon Dieu à la vie érémitique. Et non seulement il est appelé par le bon Dieu à la vie érémitique, donc le bon Dieu lui a demandé de quitter sa famille, quitter son épouse, quitter ses enfants, mais d'aller s'établir comme ermite dans une vallée proche de sa maison, et de l'endroit où il était, il voyait le toit de sa maison, la maison familiale. Vous vous rendez compte à quel point le bon Dieu peut, humainement parlant, briser certains cœurs au service du bon Dieu. Bon, ce sont des cas extraordinaires qui sont certainement peut-être pour nous au moins simples mortels que nous sommes, qui sont plus à admirer qu'à imiter. Encore un autre cas qui me vient à la mémoire, celui de Saint Alexis, le saint d'escalier, qui la nuit de ses noces abandonne son épouse pour partir en pèlerination, en pèlerinage à travers le monde, et qui va donc abandonner sa famille. Ce sont des cas exceptionnels, mais le bon Dieu, étant Dieu, a un droit strict sur ses créatures et peut leur demander, dans certains cas exceptionnels, des actions héroïques de ce genre. Passons à la page 27 sur le polycopier. Versets 51-52, le chapitre 2. Jésus descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse et en âge, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc là, il y a des passages très importants, et peut-être un peu difficiles à comprendre. Donc on voit la soumission entre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a l'impression qu'il manifeste sa divinité en restant à Jérusalem sans l'accord de ses parents pour enseigner les docteurs. Et là, il manifeste plus son humanité en redescendant avec eux et en étant soumis à ses parents. Donc il ne faut pas voir du tout dans le fait que notre Seigneur Jésus-Christ soit resté à Jérusalem sans l'accord de ses parents comme un acte de rébellion, un acte d'un adolescent qui refuse d'obéir à ses parents. Ce n'est pas du tout ça. Notre Seigneur Jésus-Christ leur donne une leçon en disant « N'oubliez pas, je suis Dieu. Et si j'ai des parents humains en tant qu'homme, en tant que Dieu, j'ai un Père céleste et je suis ici pour faire sa volonté. » Ici, en page 27, j'ai cité ce texte magnifique de Saint Bernard. Dieu obéit à une femme, humilité sans pareille. Une femme commande à Dieu, exaltation extraordinaire. Rougis donc, poussière et cendre orgueilleuse, Dieu s'humilie et toi, tu veux t'élever. On voit là l'extraordinaire sagesse de Dieu. Chaque fois que je veux commander aux hommes, souvent j'essaie en fait de surpasser mon Dieu. La perfection de la vertu de la vie religieuse consiste donc dans l'obéissance. Et ici, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un exemple merveilleux d'obéissance. Et Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie comprennent la leçon, mais en même temps continuent de remplir leurs fonctions. Saint Joseph reste, même après ce passage, il reste le chef de famille. Très Sainte Vierge Marie reste la mère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit que Dieu leur était soumis. Dieu qui est soumis à sa créature. Le Créateur qui se soumet volontairement à sa créature. Bon, certes, pas n'importe quelle créature. Être soumis à l'Immaculée Conception, c'est pas rien. Mais il y a quand même une soumission parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, était infiniment supérieur en sagesse, en sainteté, à la Très Sainte Vierge Marie, encore plus infiniment supérieure à la sagesse et la sainteté de Saint Joseph. Donc toute la vie cachée du Seigneur tient donc en cette petite phrase, il leur était soumis. C'est là tout le panégyrique du religieux, mais c'est aussi tout le panégyrique de l'enfant dans sa famille. C'est une phrase qu'il faut faire méditer aux enfants. Il leur était soumis. Si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, est soumis volontairement à ses parents, Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie, combien plus un enfant catholique doit être soumis à l'autorité de ses parents? Là, nous voyons l'importance de l'obéissance. Si la famille catholique, la famille tout simplement a complètement disparu en France, ou pratiquement, c'est parce que l'obéissance a disparu. Plus aucune obéissance. Les enfants en font qu'à leur tête à longueur de journée. Le Christ va faire des joues et des charrues, et pour cela, les prendra souvent comme exemple dans ses paraboles. Donc notre Seigneur Jésus-Christ se soumet un peu comme un bœuf se soumet à l'autorité de l'agriculteur qui mène la charrue. Alors on voit ici que notre Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est un passage assez particulier, notre Seigneur Jésus-Christ croissait en sagesse et en âge et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Alors on peut se poser la question, comment est-il possible pour Dieu qui est déjà parfait de croître en sagesse? La réponse est tout simplement qu'il y avait en notre Seigneur Jésus-Christ une triple connaissance. Une connaissance béatifique, une connaissance infuse et une connaissance expérimentale. Connaissance béatifique parce que il est Dieu. Connaissance infuse à cause de la vision béatifique et les conséquences de la vision béatifique. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, va être aussi une plénitude totale de grâce, mais aussi une connaissance expérimentale. Et c'est cette seule troisième connaissance, la connaissance expérimentale, qui pouvait augmenter. Dieu ne pouvait pas augmenter en connaissance divine ou en connaissance due à sa vision béatifique. Mais il pouvait augmenter dans sa connaissance expérimentale. Souvent, quand on explique ça aux enfants, ils se rebellent. Je dis à un enfant, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il avait 12, 13 ans, qu'il était peut-être à l'école, on ne sait pas, ce n'est pas précisé dans l'évangile, mais enfin, on peut peut-être penser qu'il est allé sur certains bancs, au moins certains bancs du temple, pour officiellement apprendre, de la part des docteurs et des prêtres, peut-être même sur un banc d'école, on ne sait pas. Quoique vraisemblablement, notre Sainte Vierge Marie devait faire l'école à la maison, c'est sûr. Cependant, on peut imaginer, sans injurier notre Seigneur Jésus-Christ, on peut penser que notre Seigneur était sur un banc d'école. Et sur un banc d'école, il a appris, comme tous les enfants du monde. Et les enfants, quand on explique ça à un enfant de catéchisme, il dit, mais notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mon père, monsieur l'abbé, il est Dieu, donc il sait tout, il n'a pas besoin d'apprendre. Il est Dieu, mais il est aussi homme. En tant que Dieu, il n'a rien, il ne peut rien apprendre, puisqu'il sait tout. Mais en tant qu'homme, oui, il peut augmenter sa science expérimentale. Et donc, cette science expérimentale correspond à une science acquise. Donc, en théologie, la science expérimentale de notre Seigneur Jésus-Christ et la science acquise de notre Seigneur Jésus-Christ sont une seule et même chose. Et cette science, acquise ou expérimentale, est la seule qui pouvait progresser. Nous verrons ça un peu plus loin, de façon plus détaillée. Donc, trois connaissances de notre Seigneur Jésus-Christ, béatifique, infuse, expérimentale. On peut simplifier en disant connaissance béatifique parce qu'il est Dieu, connaissance infuse parce qu'il est homme-Dieu, connaissance expérimentale parce qu'il est homme. Donc, il augmentait aussi dans l'exercice pratique de la sagesse et de la grâce, dit le texte de l'Évangile. Il croissait en sagesse, en âge et en grâce. Il croissait en sagesse et en grâce dans ses actions et dans ses paroles, dans le sens qu'il manifestait de plus en plus de sagesse et de piété. Donc, les pères de l'Église exprimaient ça avec une formule très philosophique. L'habitus de la grâce ne changeait pas chez lui, mais seulement les actes et effets de cet habitus. Donc, plus on avançait en âge, plus notre Seigneur avançait en âge, plus on voyait, il manifestait davantage de sagesse et de piété. Mais malgré cette progression, il restait parfaitement Dieu et parfaitement homme. Donc, voyons un petit peu les détails chez le Père de l'Église, page 27. Le Christ avait la grâce de façon naturelle, à cause de l'union hypostatique. Je rappelle que l'union hypostatique, c'est l'union entre la divinité et l'humanité dans la même personne. À cause de l'union hypostatique et de sa conception par le Saint-Esprit. Mais en nous, la grâce, elle, est surnaturelle et gratuite. N'oublions pas cette distinction très importante entre la nature et la surnature. Je me permets de répéter chose que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion sur ce point-là. L'âme n'est pas surnaturelle. L'âme est naturelle pour l'homme. Le corps et l'âme sont les deux parties de la nature humaine. Tous les hommes sont formés d'un corps et d'une âme. Donc l'existence d'une âme, qui est le cas pour tous les hommes, est quelque chose de naturel pour l'homme. C'est partie de sa nature. Non. Au contraire, la grâce de Dieu est surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle est surérogatoire, elle se rajoute à quelque chose qui préexiste. C'est pour ça que saint Thomas dit que la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc la grâce, pour pouvoir s'appliquer, pouvoir s'exercer sur un individu, cet individu doit avoir une nature sur laquelle la grâce va pouvoir travailler. Donc, pour notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, il est naturel que Dieu, en tant qu'homme, plus exactement que Dieu uni à l'humanité, pour notre Seigneur Jésus-Christ, il était naturel d'avoir la grâce, puisqu'il était homme-Dieu. Mais pour nous, qui ne sommes qu'hommes, la grâce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui se surajoute, donc elle est surnaturelle pour nous. Et c'est là une des racines du modernisme, peut-être la plus grave de toutes les racines du modernisme. Le modernisme, c'est quelqu'un qui pense que la grâce de Dieu est naturelle à l'homme. Benoît XVI l'avait exprimé plusieurs fois, Jean-Paul II aussi, Bergoglio à longueur de journée. La grâce est pour lui quelque chose de naturel. Donc si la grâce est naturelle à l'homme, elle ne peut pas être détruite. Vous pouvez rencontrer dans la rue quelqu'un qui se promène sans âme? Non, tous les hommes ont une âme. Quand l'âme et le corps sont séparés chez un individu, c'est qu'il est mort et dans un cimetière. Mais par contre, on peut rencontrer dans la rue des gens qui se promènent sans grâce surnaturelle. Parce que la grâce surnaturelle est quelque chose qui peut se détacher malheureusement de l'homme. Le corps et l'âme sont étroitement unis. La séparation totale entre le corps et l'âme chez un individu ne peut s'effectuer que par la mort. Par contre, la grâce qui est attachée qui est de façon surnaturelle à un corps, elle peut être perdue par le péché mortel. Bon, comme notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, évidemment, il n'a jamais péché, et donc cette grâce était naturelle pour lui en tant que Christ, mais en tant qu'homme, c'était un don gratuit de Dieu. Un don surnaturel et un don gratuit. Le Christ est naturellement le Fils de Dieu, alors que nous ne sommes que par adoption. Donc je ne suis pas Fils de Dieu par nature, je suis Fils de Dieu par adoption. Parfois, certaines personnes nous disent, une question que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, on me disait, Monsieur l'Abbé, notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, et vous vous dites que les hommes sont aussi Fils de Dieu. Donc, nous sommes égaux au Christ, donc l'homme est Dieu. Non, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, par nature, nous ne sommes Fils de Dieu que par adoption, c'est pas le même niveau. Donc, la grâce habituelle dans le Christ émane directement de la grâce d'union, le sanctifiant en soi dès le départ. Percé primo, on dit en théologie. Donc, cette grâce d'union, qui est la grâce divine dans l'homme-dieu qui est le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, fait homme, cette grâce d'union est la même grâce d'union qui va faire d'un homme un prêtre. La grâce sacerdotale, la grâce par laquelle un homme devient ministre de notre Seigneur Jésus-Christ en recevant le sacrement de l'ordre, n'est pas la grâce habituelle. La grâce sanctifiante, mais la grâce d'union, une grâce supérieure. Donc on participe encore plus à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en devenant prêtre qu'en étant simplement baptisé. Un simple baptisé reçoit une union avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est le début en lui, la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est quoi? C'est la grâce habituelle, c'est l'habitation de la Sainte Trinité, mais la grâce qui fait le caractère du sacerdoce, du prêtre, et la grâce d'union, une grâce donc tout à fait supérieure, encore une fois. Donc la grâce habituelle dans le Christ émane directement de la grâce d'union, disent les pères. La grâce dans le Christ est aussi une grâce qui vient de la tête. Pour nous, c'est une grâce particulière, justifiant l'homme dans lequel elle réside. Car de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Hein? Donc la grâce dans le Christ est une grâce, si vous voulez, qui n'est pas une grâce accidentelle comme pour nous. La grâce dans le Christ est une grâce permanente. Depuis que notre Seigneur Jésus-Christ existe, dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, le 25 mars, il est plein de grâce. L'enfant qui naît ou qui apparaît dans le sein de sa mère et qui naît à l'extérieur après 9 mois de grossesse n'a pas cette grâce en lui-même. C'est le baptême qui va donner cette grâce. C'est pour ça qu'un enfant qui n'est pas baptisé est créature de Dieu, bien sûr, mais n'est pas enfant de Dieu. Qu'une des grâces, des graves erreurs et hérésies de Bergoglio à Rome, c'est précisément de prétendre qu'un enfant non baptisé, qu'un homme non baptisé est fils de Dieu au même titre qu'un enfant baptisé. C'est ce qu'a dit Bergoglio plusieurs fois en prétendant que les musulmans sont des enfants de Dieu. Les musulmans sont des créatures de Dieu, comme nous tous. Ils ne sont pas enfants de Dieu, parce qu'on est enfant de Dieu par le baptême. La grâce augmente en nous aussi par les bonnes œuvres, mais pas notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut pas augmenter en notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Christ, parce que cette grâce est déjà dans sa plénitude, depuis la conception de l'enfant Jésus dans le sein de la très sainte Vierge Marie, précisément parce qu'elle vient de la grâce d'union avec le Verbe, donc une grâce qui est pleine et parfaite depuis le début, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre nature humaine, la même que nous, en tout sauf le péché. Et donc le fait que l'homme naisse dans le péché va entraîner que l'homme va naître sans la grâce. L'homme naît avec une âme qui est blessée par le péché originel, ce qui n'est pas le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va naître avec une perfection de nature que nous n'avons pas, évidemment. Alors, moralement parlant, les pères expliquent que le Christ progresse en sagesse et en grâce, non en lui-même, puisqu'en lui-même il ne peut pas augmenté en rien, sauf dans sa science, dans sa connaissance expérimentale, j'ai déjà expliqué. Mais notre Seigneur Jésus-Christ va progresser en sagesse et en grâce dans ses membres, c'est-à-dire dans son Église, parce que son Église n'est rien d'autre que son corps mystique. C'est-à-dire qu'il va augmenter en grâce et en sagesse dans les catholiques. Il va produire donc des actes de vertu de plus en plus grands pour nous enseigner à en faire autant. Nous aussi, étant membres de l'Église catholique, nous devons augmenter en nous cette union à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on peut augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. On ne peut pas avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité, parce qu'il faut viser notre Seigneur Jésus-Christ. On ne pourra jamais avoir le même degré de foi, d'espérance, de charité que notre Seigneur. Notre Seigneur n'avait pas la foi ni l'espérance, puisqu'il était Dieu, il n'avait pas besoin de foi ni d'espérance. Mais nous, qui ne voyons pas Dieu, nous avons besoin de foi pour croire en celui qu'on ne voit pas, et d'espérance en celui qu'on ne possède pas encore. Par contre, la charité, elle peut augmenter en nous de façon permanente. Mais on ne pourra jamais arriver au degré de charité de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous ne sommes pas Dieu. Donc notre vie spirituelle, elle progresse ou elle s'écroule. On dit, dans la vie spirituelle, celui qui ne progresse pas dans la vie spirituelle, c'est qui régresse. Donc si la vie spirituelle ne progresse pas en nous, elle ne peut devenir que de pire en pire. Il nous faut donc montrer aux hommes cette grâce par laquelle nous plaisons à Dieu. Donc celui au-dessus duquel je suis placé par ma dignité, mais parfois de beaucoup supérieur en vertu. Donc il peut y avoir, malheureusement, enfin, c'est assez souvent le cas, une différence entre la grâce et la nature. Selon la nature, le père de famille est chef de famille. Mais selon la grâce, le père de famille peut-être moins saint que son épouse. Voilà pourquoi, c'est une parenthèse importante, le chef de famille, à cause de sa fonction dans la nature, doit essayer d'avoir un degré de grâce qui correspond à cette fonction. Et donc le chef de famille devrait être aussi celui qui est le plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, c'est souvent le contraire. Souvent, dans les familles, j'ai remarqué, pas toujours, mais souvent, la mère, l'épouse, est plus proche de Dieu que l'époux. Bon, ça vient aussi du fait que l'époux devant travailler dans le monde pour gagner et remplir l'escarcelle, comme on dit, eh bien évidemment, est exposée à beaucoup plus de tentations que la mère de famille qui reste au foyer pour s'occuper de ses enfants, qui n'est pas tentée de la même façon. Le principe demeure. Donc, quand on dit que le Christ croissait devant Dieu, devant les hommes, ça veut dire qu'il faut plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ passe avant. Alors, comment est-ce qu'on perd notre Seigneur Jésus-Christ? J'ai déjà expliqué. Donc, ici, on est au milieu de la page 27. Comment perdons-nous notre Seigneur Jésus-Christ? On perd notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel. Bon, comment pourrait-il faire sentir sa présence à cette âme qui se plaît dans ce que Jésus condamne? Puisse cette pauvre âme sentir le vide que cause la perte de Jésus? Puisse-t-elle sentir qu'il lui manque quelque chose et qu'il lui manque beaucoup? Si j'ai perdu notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai tout perdu. Si j'ai notre Seigneur Jésus-Christ et que j'ai perdu tout le reste, j'ai tout gagné. Donc au soir de notre vie, nous serons jugés sur notre degré de charité, sur le degré de présence de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, sur le degré d'union que nous devons avoir avec notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante. Et il faut comprendre, j'ai déjà un petit peu expliqué avant, mais là je reviens avec les textes que je commente, des pères de l'Église, que cette séparation d'avec notre Seigneur Jésus-Christ est peut-être due au péché mortel, dans certains cas elle peut être due aussi au péché véniel, hein, mais elle peut aussi être une épreuve voulue par Dieu. Donc, on nous perdons Jésus par l'habitude du péché véniel et par les attaches aux créatures. Le péché, c'est ça. Le péché, c'est adhérer de plus en plus à la créature à la place de l'adhésion que nous devons à Dieu. Aversio ad Deo, conversio ad creatura, dit saint Thomas. Le péché, c'est ça. Se détourner de Dieu, aversio ad Deo, pour se tourner vers la créature, conversio ad creaturas. Donc, chaque fois que je commets un péché mortel, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte de mon âme, je fais sortir notre Seigneur Jésus-Christ, par cette même porte que je viens d'ouvrir, je fais rentrer une créature de Dieu. qui va prendre dans mon âme la place qu'occupait autrefois le bon Dieu lui-même. Donc dans chaque péché grave, il y a la malice d'un crime d'idolâtrie. J'adore une fausse créature puisque je place sur le trône de mon âme une créature au lieu du créateur, alors que ce trône est en principe réservé au créateur seul. Donc, nous perdons Jésus par l'habitude aussi du péché véniel. On ne le perd pas de la même façon, attention. Par le péché mortel, on perd totalement, il sort complètement de notre âme. Il va falloir utiliser soit un acte de contrition parfaite, soit sacrement de pénitence, pour pouvoir refaire revenir notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Mais par l'habitude du péché véniel, ou par les attaches aux créatures, on perd Jésus un petit peu. Bon, le bon Dieu ne peut pas nous demander d'être complètement coupé des créatures. Il ne va pas nous demander, vous demander de vivre dans une grotte ou au sommet d'un arbre, c'est évident. Mais le monde moderne, si vous voulez, autour de nous, en quelque sorte, nous arrache des parcelles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un peu inévitable. Voilà le texte des Pères, en bas de la page 27. Il y a peu d'âmes qui n'aient senti une fois dans leur vie que Jésus est tout pour les âmes. Pourquoi ne pas vivre toujours dans ce sentiment? Pourquoi ne pas chercher Jésus comme le seul bien désirable, l'unique bien désirable? Nous rattachons à la poursuite des ombres qui passent devant nous. Nous laissons entrer en nous la tâche qui nous rend indignes de Jésus. Nous laissons s'émousser la sensibilité de notre âme et nous sommes incapables de converser avec Jésus. Pour vous aider à méditer sur ce passage de Jésus qui est perdu au temple, je peux vous citer les hymnes de certaines fêtes liturgiques, entre autres de la fête de la Sainte Famille, dans le dimanche, dans l'octave de l'Épiphanie. Voilà ces hymnes qui sont splendides. Aux lumières bienheureuses des habitants des cieux, suprême espoir des mortels, ô Jésus, vous à qui l'affection domestique vient sourire à votre naissance. Marie, riche de grâce, ô vous à qui seul est donné de pouvoir réchauffer Jésus sur votre chaste poitrine, lui donnant avec votre lait de maternel baiser. Et vous aussi qui avez été choisi parmi les anciens patriarches pour être le gardien de la Vierge, et à qui le divin enfant donne le doux nom de Père. Vous qui êtes issus de la noble souche de Jessé, pour le salut du monde, écoutez-nous suppliant que nous sommes au pied de vos autels. À l'heure où le déclin du soleil, ramenant le soir, mais tout dans l'ombre, nous continuons à répondre ici nos prières du plus profond de notre cœur. La grâce de toutes les vertus, que votre demeure vit fleurir, a resplendi, qu'il nous soit donné de pouvoir les reproduire dans notre vie domestique. Ô Jésus, qui avez voulu être obéissant à vos parents, gloire à vous, toujours ainsi qu'au Père souverain, à l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Également l'hymne de matine de la fête de la Sainte Famille. Déjà resplendissent les temples sacrés décorés de leurs lampes. Déjà l'autel est orné de guirlandes. Les encensoirs laissent échapper la fumée et le parfum de l'encens qui brûle en hommage pieux. Ne convient-il pas de célébrer par nos cantiques la naissance royale du Fils du Père souverain, la maison de David et les noms glorieux de cette lignée antique? Il est plus doux pour nous de rappeler la petite maison de Nazareth et l'humble existence qu'on y mène. Il est plus doux de célébrer dans notre hymne la vie obscure de Jésus. L'enfant divin fugitif, après avoir beaucoup souffert, revient à la hâte sous la conduite d'un ange des bords lointains du Nil et revoit sain et sauf le seuil de la maison paternelle. Là, Jésus fait l'apprentissage de l'humble métier de Joseph. Là, dans l'ombre, il grandit en âge et se montre heureux de partager les travaux du charpentier. Que la sueur, dit-il, ruisselle sur mes membres avant que l'effusion de mon sang les inonde, que cette peine du travail serve aussi d'expiation pour le genre humain. Près du divin enfant se tient sa tendre mère, près de son épouse se tient l'épouse dévouée. Elle est heureuse de pouvoir soulager leur peine et leur fatigue par des soins affectueux. Ô vous qui ne fûtes exemple ni des soucis ni du travail, et qui avez connu l'infortune, assistez les malheureux que l'indigence étreint et qui luttent contre les difficultés de la vie. Ôtez l'amour du faste aux opulents, que la prospérité entoure des splendeurs, faites que leur âme soit à la hauteur de leurs devoirs, surtout ceux qui implorent votre appui, abaissez un regard bienveillant. À vous, honneur et puissance, ô Jésus, qui nous offrait de saints exemples de vie et qui régnait avec le Père suprême et l'Esprit d'amour. voyez la beauté de ces hymnes. Qu'heureux c'est devenu pour la famille qu'il habitait, la vénérable demeure de Nazareth dans laquelle ont germé et se sont développés les mystérieux commencements de l'Église. Le soleil dont le disque parcourt l'étendue des continents n'a rien vu dans la suite des siècles qui soit plus charmant ou plus saint. Les messagers de la cour céleste volent vers elle en grand nombre. Ils visitent encore, ils vénèrent ce sanctuaire de la vertu. De quel cœur, de quelle main Jésus accomplit les désirs paternels, avec quelle joie la Vierge se livre à ses devoirs de mère. Joseph assiste son épouse, partageant son amour et sa sollicitude, âme sainte que la grâce embellie de vertu attache par mille nœuds. Se chérissant l'un et l'autre, ils concentrent l'amour en Jésus, et Jésus donne à l'un et à l'autre les témoignages d'une charité réciproque. Puisse la charité nous unir également par des liens indissolubles, puisse-t-elle entretenir la paix dans les familles, adoucir les amertumes de la vie. Ô Jésus, qui avez voulu être obéissant à vos parents, gloire à vous, toujours ainsi qu'au Père souverain et à l'Esprit Saint. On peut méditer aussi, dans ce même ordre de choses, la magnifique oraison de la Sainte Famille. Seigneur Jésus-Christ, qui étant soumis à Marie et à Joseph, avait consacré la vie domestique par des vertus ineffables, faites que grâce au secours de l'un de l'autre, nous soyons instruits par les exemples de votre Sainte Famille et que nous obtenions d'être en sa compagnie pendant l'éternité. On peut aussi utiliser pour notre méditation sur ces passages Jésus qui est perdu au temple à 12 ans, aussi les très belles oraisons de la fête du Saint-Nom de Jésus, le dimanche entre la circoncision et l'épiphanie au début de l'année liturgique. Ô Dieu, qui avez établi votre Fils unique, sauveur du genre humain, et avez ordonné qu'on l'appelât Jésus, faites dans votre miséricorde que nous jouissions dans les cieux de la vue de celui dont nous vénérons le Saint-Nom sur la terre. Et là encore, je vais vous lire les magnifiques hymnes de la fête du Saint-Nom de Jésus. Jésus, roi admirable, Jésus Rex Admirabilis, Jésus roi admirable et noble triomphateur, douceur ineffable, vous êtes tout désirable. Quand vous visitez notre cœur, la vérité brille pour lui, il méprise la vanité du monde et s'enflamme intérieurement de charité. Ô Jésus, douceur des cœurs, source vive, lumière des intelligences, vous surpassez toute joie et tout désir. Reconnaissez tous Jésus, demandez son amour, cherchez Jésus avec ardeur, et en le cherchant, embrassez-vous. Que votre voix, ô Jésus, fasse entendre votre nom. Que notre voix, ô Jésus, fasse entendre votre nom. Que notre vie exprime vos vertus. Que nos cœurs vous aiment, et maintenant et à jamais. Jésus, gloire des anges, chant doux à l'oreille, miel merveilleux dans la bouche, céleste nectar pour le cœur. Ceux qui vous goûtent ont encore faim, ceux qui vous boivent ont encore soif, ils ne savent désirer que Jésus, objet de leur amour. Ô mon très doux Jésus, espoir de l'âme qui soupire, et l'âme pieuse vous réclame, le cri intime de l'âme vous appelle. Demeurez avec nous, Seigneur, et éclairez-moi de votre lumière, chassez de notre âme les ténèbres, remplissez le monde de votre douceur. Jésus, fleur de la Vierge Mère, amour pour nous plein de douceur, à vous la louange, l'honneur du nom, le royaume de la béatitude. Voilà pourquoi il est tellement important, mes chers frères, de garder notre Seigneur Jésus-Christ en nous, non seulement en évitant le péché mortel, mais également en évitant le péché véniel autant que faire se peut. On ne peut pas éviter les fautes de fragilité, ça c'est impossible, sans des grâces particulières du bon Dieu. Mais avec la grâce du bon Dieu, on peut éviter le péché mortel et même le péché véniel, hein. Donc Jésus, note les pères en bas de la page 27 sur le polycopier, Jésus se dérobe à certaines âmes et leur enlève le sentiment de sa présence, non pour les punir, mais pour les exercer, les amener à le rechercher avec plus d'ardeur et à se donner ensuite à elle plus complètement comme il le fit pour Marie et pour Joseph. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, dans certains cas, purifie les âmes. Ce qu'on appelle la nuit des sens et la nuit de l'esprit. C'est Saint Jean de la Croix qui a très bien expliqué ça dans ses livres de théologie mystique. Donc lorsqu'une âme passe de la voie purgative à la voie illuminative, en général, il passe par une période de grandes épreuves spirituelles qu'on appelle la nuit des sens. Le bon Dieu va enlever les plaisirs sensibles de la foi catholique. Il va détacher l'âme des plaisirs sensibles. Puis ensuite, dans le passage, lors du passage de la voie illuminative à la voie mystique, à la voie unitive, il va rajouter une autre purification encore plus dure, la nuit de l'esprit. Cette fois-ci, il va même enlever les consolations intellectuelles. Au lieu de chercher les consolations du bon Dieu, il va nous obliger à chercher le Dieu des consolations. En bas de la page 27, encore un beau texte des pères là. Ils cherchaient Dieu dans leur parenté, ils cherchaient le Christ dans leur parenté. Non, ce n'est pas dans sa parenté, ce n'est pas parmi les hommes que l'on peut trouver Jésus, le Fils de Dieu. Ils ne le trouvent point parmi les personnes de leur connaissance, car ce qui est de Dieu surpasse la connaissance de l'homme. Ils ne l'avaient point trouvé dans la compagnie qui était avec eux, car Jésus ne se trouve point dans la foule. Donc encore une fois, il faut chercher notre Seigneur Jésus-Christ là où il est. C'est ça le drame du monde moderne. C'est le monde moderne par le bruit constant, par la saleté constante, par l'occupation constante, par la recherche effrénée des plaisirs matériels, des plaisirs sensuels, nous coupe de Dieu. Une âme qui se laisse entraîner par l'esprit du monde n'a plus du tout de temps pour rechercher notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans la pratique, au lieu d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, il va adorer la créature, il va remplacer dans son corps, dans son cœur, dans son âme, l'amour de Dieu par l'amour des créatures. Bon, passons à la page 28. Pendant 3 jours, ils le cherchèrent. Ces 3 jours de recherche dans l'angoisse et les larmes, traversés par la crainte d'une mort cruelle qui avait pu atteindre ce cher enfant, n'avait-il pas, remarque Saint Ambroise, une prophétie, n'était-il pas, remarque Saint Ambroise, une prophétie de ces 3 jours pendant lesquels ses disciples et sa mère le pleureraient véritablement mort. C'est-à-dire les 3 jours pendant lesquels Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie vont chercher notre Seigneur Jésus-Christ sans le trouver, représentent les 3 jours du Vendredi Saint, au soir jusqu'au matin de Pâques, pendant lesquels les apôtres vont perdre la foi. Cette absence de notre Seigneur Jésus-Christ va représenter la perte de la foi dans le cœur des apôtres. Tous les apôtres ont perdu la foi parce qu'ils se sont sauvés comme des lapins au soir du Jeudi Saint. Seule la très sainte Vierge Marie a conservé la foi. Même Sainte Marie-Madeleine et les Saintes Femmes avaient perdu la foi. La preuve, c'est qu'elles vont venir au temple avec des aromates pour terminer les rites funéraires selon les coutumes juives. Donc elles avaient complètement oublié que notre Seigneur Jésus-Christ avait pourtant prévenu plusieurs fois que le troisième jour il ressusciterait d'entre les morts. Ça, ils n'ont pas vu. Donc, soyons pas surpris si la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph eux-mêmes n'ont pas tout compris. Rappelez-vous le texte, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Bon, si la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Immaculée Conception, n'a pas tout compris dans les épreuves par lesquelles ils ont dû passer au service de notre Seigneur Jésus-Christ, ne soyons pas surpris si vous et moi, au service de notre Seigneur Jésus-Christ, nous passons aussi par des épreuves qui sont difficilement compréhensibles. Certaines épreuves, des maladies très très graves, des maladies douloureuses, pénibles, avec des conséquences épouvantables pour les familles. Un époux, chef de famille, qui devient incapable de travailler parce qu'il y a eu un accident de travail, à cause d'un accident de voiture, que sais-je. Une maman arrachée à l'affection des siens, avec des enfants encore en bas âge, qui part dans un accident de voiture, par exemple. Bon, eh bien, on pourrait être tenté de se révolter en disant mais comment se fait-il que le bon Dieu permette des choses comme ça? C'est ce qu'on entend tout le temps autour de nous, par les païens. Si le bon Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il autorise toutes ces horreurs? Eh bien, la réponse, elle est là. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. La très sainte Vierge Marie n'a pas compris. Ne saviez-vous pas pourquoi, excusez-moi, la très sainte Vierge Marie n'avait pas compris, verset 48. Pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Voici que votre Père et moi, nous vous cherchions tout affligés. Et notre Seigneur Jésus-Christ de leur répondre, ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Et donc nous aussi, il faut faire comme la Sainte Vierge. Quand on ne comprend pas certaines croix, certaines difficultés, parfois très graves, très lourdes, humilions-nous. Et conservons toutes ces choses dans son cœur, ayons une vie d'oraison, une vie de prière pour justement comprendre comprendre que sans notre Seigneur Jésus-Christ, précisément, on ne peut absolument rien faire. Donc ne pas nous décourager, mais mettre bien tout ça entre les mains du bon Dieu. Voilà, donc je vais arrêter là, pour prolonger ces cours au-delà d'une heure. Nous allons terminer par une prière. Oh, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.